Voilà, donc on est dans la cour du musée de l'Hospice Comtesse et dans le cadre de l'île 3000, on voit un grand lotus, je ne sais pas trop dans quelle matière, qui s'ouvre, qui se ferme, bref, qui crée l'animation dans cette cour centrale. Et donc j'ai à côté de moi un artiste, un créateur, qui semble assez intéressé par cette œuvre.
Ben oui, parce que c'est cette espèce de grosse fleur qui s'ouvre, qui se ferme. Et qui semble représenter une fleur de lotus géante, m'interpelle puisque j'ai moi-même, sur l'invitation de Caroline David, réalisé un sac en tissu de fibres de lotus et cuir. Et le tissu de fibre de lotus, donc c'est les fibres tirées de la plante dont on utilise les fleurs par ailleurs pour un autre usage. Et ce sont les fibres dont des artisans en Asie ont réussi à faire un tissu extrêmement précieux et difficile à réaliser, parce que je crois que ces fibres sont pas du tout faciles à travailler. Mais par contre, c'est un tissu qui a des propriétés extraordinaires, extrêmement respirantes, extrêmement léger, aéré. Et donc c'est très recherché pour des vestes l'été notamment, parce que c'est encore plus agréable que le lin ou des tissus comme ça.
Alors vous vous appelez ?
Luc Donien.
Et donc dans ce cadre-là, dans votre création, vous avez fait appel à une école de la région Nord-Pas-de-Calais.
Alors il se trouve que c'est... Donc nous on a apporté un peu notre procédé qui permet de faire un cuir flexible. Donc cuir flexible avec ce tissu de lotus, ça permet en fait de donner une forme à un sac tout en restant extrêmement léger. C'est-à-dire que là c'est juste un peu comme des cornières en cuir qui viennent juste souligner la forme et faire qu'elle se tienne debout. Et donc c'est un procédé qu'on a breveté qui permet de faire un cuir à mémoire de forme, avec simplement le cuir et sa doublure. C'est comme un matériau composite, on colle le cuir de toute façon avec sa doublure et ça donne une forme en trois dimensions avec une mémoire de forme et un caractère flexible. Et donc ça permet de renouveler un peu le registre de forme en cuir. Et on a travaillé avec l'école centrale de Lille parce que c'est un procédé qui est assez compliqué à mettre en œuvre. Et l'école centrale de Lille nous a proposé les meilleures solutions pour fabriquer des objets avec cette technique de façon économiquement adaptée. Puisque c'est pas le tout d'inventer des choses très innovantes, très créatives, si après elles sortent à des prix absolument inabordables, elles ne trouvent pas leur public.
Donc la junior entreprise de l'école centrale, qui a été classée meilleure de France il y a deux ans d'ailleurs.
Il y a deux ans, c'était la numéro 1.
Voilà. Elle est capable.
Et après numéro 2, hein, donc ils sont toujours dans les...
Elle est capable de répondre à ce genre de défi.
Oui, ils avaient même... on avait eu proposition en déposant une demande sur le site des juniors entreprises des écoles d'ingénieurs de France. Et c'est eux qu'on avait retenu parce qu'ils avaient compris d'une part qu'on avait besoin d'un vrai apport technique. Parce que moi, j'avais bricolé une machine pour le faire dans mon petit atelier. On est artisans, nous. Hein. Donc, il y avait un vrai apport technique que moi, j'aurais été bien incapable de faire. Hein. Un apport d'ingénierie. Et puis, en même temps, ils avaient compris qu'on était une TPE, une entreprise artisanale, et que donc, on avait des moyens limités. Et donc, il y a eu un compromis entre un vrai apport d'ingénieur, de technique, qui fait qu'on a une vraie machine à la sortie, et puis, en même temps, des coûts de développement qui restent raisonnables, avec quand même l'idée que la machine est évolutive. C'est-à-dire que si demain, le monde entier veut... des sacs en cuir flexible, la machine doit pouvoir s'adapter pour devenir vraiment, robotisée.
À partir donc de la conception, de la technologie qui a été maîtrisée grâce à ces étudiants, vous avez pu monter donc votre œuvre et la présenter dans le cadre de l'exposition universelle de Milan. Si on fait un peu le bilan de cette exposition universelle et notamment de votre place dans cette exposition.
C'est toujours extrêmement valorisant de participer à une exposition comme ça parce que ça donne visibilité et une reconnaissance. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses à voir pour le public, même pour les journalistes, même pour les experts, tout ça, que ce genre d'exposition permet de pointer du regard, de mettre l'accent sur quelque chose qu'on a réalisé. Donc c'est très utile pour nous et il se trouve qu'on avait déjà eu un sac qui avait été qui s'appelle le Pelochon, qui est le premier sac qu'on a réalisé avec cette technique et qui avait été montré sur Futuro Textile. Et c'est grâce à ça que sa saga a commencé, qui aujourd'hui nous permet d'espérer un vrai développement. Et là c'était donc Futuro Textile grâce à Caroline David qui avait permis d'initier cette démarche.
Donc pour rappel, Futuro Textile, c'est un concept qui a démarré il y a 7-8 ans et qui fait le tour du monde en présentant justement ce qu'on peut faire à partir de nouvelles fibres. Et donc c'est un projet typiquement régional au départ, mais qui s'est bien développé.
Qui est typiquement régional et qui devient universel justement parce que par sa portée, le textile et du textile dans le monde entier. Hein. En même temps, l'île, le Nord... a une grande histoire dans le textile et donc Futuro Textile c'est effectivement à la fois un projet né à Lille sans doute pas par hasard et qui a une portée universelle parce que le textile ça reste un matériau à la fois extrêmement traditionnel et puis extrêmement marqué par l'innovation puisque le textile continuera à être partout dans nos vies et on le voit bien avec la vitalité de l'innovation dans ce domaine avec les tissus intelligents, les tissus de toutes sortes qui se créent.
Donc cette passion pour le textile, elle a une origine et vous allez quand même nous l'expliquer.
Oui, alors évidemment c'est assez émouvant pour moi de venir à Lille parce que en fait mes ancêtres avaient inventé la dentelle de Lyon, hein, qui est une cousine de la dentelle de Calais, qui est issue du métier bobin, inventé par les Anglais, qui est le métier à tulle moderne. Les Anglais, Leavers, et les Calaisiens ont inventé le métier Leavers, qui cherchaient à imiter la dentelle. Et les Lyonnais, eux, ils ont pu s'adapter cette technique pour imiter la soierie, avec des grands dessins et toute cette histoire du dessin lyonnais, lui-même héritier de toutes les civilisations de la route de la soie. Et donc là encore, c'est une histoire de passage entre le nord, le sud, et donc d'une invention qui naît dans le nord et puis qui s'universalise après. Et donc c'est assez émouvant pour moi de participer à Textifou dans l'occurrence avec ce deuxième sac qu'on a créé et qui est réalisé en fibre de lotus et cuir flexible. Donc
effectivement le lotus que l'on voit, alors les auditeurs le ne le voient pas mais on l'entend, c'est l'avantage.
On l'entend, oui, on l'entend et on le voit, il s'ouvre et il se ferme. Voilà. En accéléré, ce processus qui se joue à la tombée de la nuit, je crois, quand la fleur se referme à la surface de l'eau et qui là... qui là se produit toutes les minutes presque.
Oui. Donc si on revient un peu au textile en France, voire avec la route de la soie, voire dans d'autres pays, et en région Nord-Pas-de-Calais, enfin dans notre région ici, qu'est-ce qu'il reste comme trace de cette industrie textile et qu'est-ce qu'on peut faire comme lien entre les divers lieux où l'industrie textile a été florissante et dans ces lieux, que se passe-t-il actuellement ?
Le Nord a, par exemple, dans le domaine, on parlait de la dentelle, mais dans le domaine de la dentelle, à Lyon, malheureusement, c'est terminé en termes de production. De ce côté-là, le Nord a mieux résisté, puisqu'il reste plusieurs denteliers à Lyon et à Calais. Et d'ailleurs, c'est à Caudry que, à Caudry et à Calais, c'est à Caudry qu'un dentelier, la maison Braque, a repris trois métiers de Lyon et les a remis en marche. Donc aujourd'hui, le dernier fabricant de dentelle de Lyon est à Caudry. Et il y a aussi beaucoup de vitalité à Lille dans le domaine textile. Le centre européen du textile innovant a été inauguré il y a 2-3 ans avec cette espèce de machine infernale qui sert à concevoir des non-tissés, qui est une nouvelle... une nouvelle voie du textile, hein, parce qu'on avait la maille, le tissu, la dentelle, le non-tissé, c'est-à-dire un textile qui n'est ni tricoté ni tissé, mais qui est un agglomérat de fibres, est sans doute une des grandes pistes d'avenir du textile. Ça, à Lille, donc, avec le Centre européen du textile innovant, il y a une avancée significative dans ce domaine.
Si on fait la comparaison entre la dentelle de Lyon et la dentelle de Calais ou de Caudry.
Alors la dentelle de Calais, elle a cherché à imiter la dentelle qu'on faisait à la main essentiellement et qui était quand même majoritairement des petits métrages. Pour faire des volants, dans le domaine décoratif, même si on a fait des grandes pièces de dentelle aussi à la main, mais c'était réservé à une petite élite royale ou aristocratique, puisque la dentelle faite à la main, que ce soit au fuseau et encore plus à l'aiguille, c'est tellement long à faire que pour avoir une grande pièce, il faut vraiment être richissime. Donc c'était autrefois réservé vraiment au roi ou à la plus haute noblesse. Et la dentelle mécanique a permis de démocratiser cela. C'est-à-dire qu'avec la dentelle mécanique, on peut avoir de grands métrages de dentelle à un prix beaucoup plus abordable, beaucoup plus démocratique de ce point de vue-là. Mais il y a eu deux voies, donc la dentelle de Calais, comme je vous disais, elle a pu chercher à imiter la dentelle qui se faisait à la main. Et donc, pour avoir un grand métrage de dentelle de Calais, on va reproduire le même dessin. Puisque à Calais, on n'a pas eu le souci de faire d'immenses dessins. Voilà. Par contre, à Lyon, on a voulu imiter la soierie. Et la soierie, c'était beaucoup d'ameublement. Et Lyon avait développé au cours des siècles, et en s'inspirant de toutes les civilisations de la route de la soie, dont elle était la dernière étape après l'Italie. On avait les Coptes en Égypte, les civilisations arabes, les Perses, bien sûr, en remontant jusqu'à la Chine et même le Japon. Lyon s'est inspiré de toute civilisation pour développer un art du dessin absolument sublime qui a fait la facture française à partir de François Ier jusqu'à la fin du XIXe siècle. Après, ça a décru lentement. Ceci dit, il reste encore quelques belles maisons comme Presles ou quelques autres qui travaillent notamment pour les monuments nationaux. Et donc il y a eu vraiment un apogée de la civilisation de la soie à Lyon à cette époque-là, dont on voit encore tellement de témoignages dans nos châteaux à Versailles et dans tous ces palais. Et donc la dentelle de Lyon, elle a cherché à imiter ça, donc à faire des grands dessins. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle a eu un succès tout particulier au Second Empire, parce qu'avec les crinolines, ça faisait une grande surface à couvrir, et il y a eu la mode des châles en indienne. Et donc ils ont imité des châles en indienne en dentelle mécanique. Ça, c'était pas possible de le faire en dentelle diverse, mais avec la dentelle de Lyon, c'était justement ce qui était possible. Et donc ça a eu un immense succès à l'époque, et ça a été prolongé notamment dans le domaine de l'ameublement. C'est-à-dire, c'est en dentelle de Lyon qu'on faisait de somptueux rideaux, de somptueuses nappes en dentelle, avec des dessins, avec un seul dessin couvrant toute la surface, et non pas un report d'un petit dessin qu'on reproduit en motif.
Donc maintenant, dans notre région, on a des musées, Caudry, Calais, je pense. Hein. Est-ce que ce qui est présenté en musée, c'est très différent de ce qui se développe encore, enfin, ce qui existe encore dans la production locale?
La dentelle est restée longtemps très ornementale, avec des motifs floraux plutôt classiques, on va dire. Depuis un certain nombre d'années, ça se développe beaucoup en broderie. C'est-à-dire qu'à Calais, notamment, on rebrode la dentelle. C'est-à-dire qu'on utilise la dentelle comme un support, et après, on vient l'ornementer de riches broderies extrêmement créatives et sublimes en général. Mais à ce moment-là, la dentelle, à la limite, n'est plus qu'un support. Je pense qu'il y a une piste pour l'avenir, c'est justement l'art contemporain, tout le dessin contemporain plus simple, plus graphique, à mon avis, a été encore relativement peu exploré, même s'il y a eu, on peut en trouver, mais a été quand même relativement exploré. Et je pense que pour pour Calais et Caudry, qui sont les derniers à sauvegarder ces savoir-faire, je pense qu'il y a beaucoup de pistes à explorer dans ce domaine. Voilà. Si on rejoint ça à l'île 3000 qui est toute cette efflorescence d'art contemporain, je pense qu'il y a sûrement quelque chose à faire, plein de choses à faire.
Voilà, donc on est encore un peu avec nos racines du passé. On est aussi dans le vent, comme on l'est dans cette cour ici, donc de l'Hospice Comtesse, qui accueille cette exposition de Lotus.
Tout à fait. Et alors à Lyon, il reste un seul métier à dentelle de Lyon qui a été sauvegardé et qui a été mis en scène il y a 2 ans pendant les Journées européennes du patrimoine par 2 scénographes lyonnais, Isabelle Moulin et Wilfried Aberet. Et ils avaient surnommé le métier la Belle Dormante. Et donc la Belle Dormante dort toujours à Lyon. Et il y a un projet donc avec Caudry qui sont donc les derniers à fabriquer la dentelle de Lyon, qui ont remis eux 3 métiers en marche. Il y a un projet pour faire revivre ce métier à dentelle de Lyon et explorer peut-être justement de nouvelles pistes de création dans des domaines plus contemporains. Enfin voilà, il y a certainement énormément de choses à faire dans ce domaine.
Bien, merci pour toutes ces explications. On se retrouve soit à Lille, soit à Lyon. Voilà.
Aux deux.
On rappelle votre nom ?
Parcours. Moi, je m'appelle Luc Donien.